Bonjour à tous. Bon vendredi matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez regardé le débat, le face-à-face hier soir à TVA. En tous les cas, depuis, bien sûr, ça jase pas mal sur l'épicerie. Je ne sais pas vous, là, 75$, ça vous paraît-tu suffisant? Bon, le contexte, il faut le replacer. C'est sûr qu'il y a un peu de spin là-dedans, vous aurez compris. Mais c'est fou comme une petite déclaration comme ça peut nous fâcher parce qu'on... Quand on regarde les choses, sincèrement, là, il faut vraiment pas faire l'épicerie beaucoup pour savoir, pour penser que quand tu fais une épicerie 75$, il y a beaucoup de végétal dedans. Non, la dernière affaire qu'il y a, c'est du végétal, parce qu'il y a surtout de la canne, pas cher, 2 pour 1$.
Du macaroni.
Du cordon bleu, puis du Paris pâté.
Du bolognaise. Ah, mes invités savent faire une épicerie à 75$. Merci d'être là. Geneviève Saint-Germain, ici, présente, journaliste, auteur. Jean-François Gay, auteur, designer. Merci d'être là. Nicolas Chevrier, psychologue.
Bonjour.
Merci, Nicolas. Ça a zéro rapport avec notre prochain sujet, mais je trouvais que c'était intéressant de commencer par ça parce que tout le monde en parle ce matin. Je pense que c'est la discussion de la machine à café. Tout le monde se demande, toi, ton épicerie, combien qu'elle te coûte? Toi, Nicolas, 75$, penses-tu que c'est possible?
Ça me rappelle les temps du doctorat et de l'étude universitaire.
Des pommes et du beurre de peanuts, c'est
ouais, ça? Des pâtes et puis de la sauce à spaghetti là, avec probablement 7 jours de pâtes et le matin, quelques boîtes de céréales.
Ouais. On peut peut-être Geneviève, s'en sortir. Toi?
Mais... Moi, je trouve ça tellement déconnecté de dire ça. Là. C'est comme donner une claque dans le visage aux citoyens. Ça montre le degré de déconnexion du gars. Non seulement il ne fait pas l'épicerie, mais en plus, il y a comme une forme de mépris là-dedans, de même pas se renseigner. Tu sais, un premier ministre qui ne sait pas le prix d'un pain puis d'une pinte de lait, là. Tu sais, tu parles de tes années d'études. Mm-hmm. Ça coûtait pas mal moins cher, les boîtes de macaroni, déjà, dans ce temps-là. Les prix ont considérablement augmenté.
Hey, même le Kraft Dinner, il faut l'acheter en spécial.
Ben oui, toi.
Sérieux? Jean-François?
Je suis d'accord avec Geneviève, mais...
Toi qui as été père monoparental et tout, là?
Oui, les fins de mois viennent vite, la marge de crédit se creuse, puis tu veux pas priver tes enfants, tu veux pas dire, on coupe là-dessus. Au contraire, après le divorce ou après une séparation, t'as même envie d'y gâter et tu n'entêtes.
Ah non, c'est clair. On reviendra là-dessus d'ailleurs lundi parce que tout ça nous ramène à la question du salaire minimum finalement. Mmh. Parce que en même temps, c'est un peu une question où dans sa tête, Philippe Couillard, il devait se dire « Oh mon Dieu, si je dis que non, ça n'a pas de bon sens, je vais être obligé. » Là, la prochaine question qui vient, si vous reconnaissez que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que vous faites pour ces 420 000 personnes qui travaillent au salaire minimum au Québec et qui demandent qu'on l'augmente parce qu'elles n'arrivent pas avec moins de 12$ de l'heure? T'sais?
Hier soir, je jouais au hockey avec le propriétaire d'une fromagerie. Fromagerie Amel, qui est quand même pas... Et ils viennent d'ouvrir une succursale à Boucherville. Ils trouvent personne.
Ouais.
Donc, l'histoire du salaire minimum, là, je pense que c'est un... je ne suis pas économiste, mais je me dis, à un moment donné, ça va être un faux problème. Il va augmenter de toute façon parce que les gens, ils vont plus travailler à des petits salaires. Donc, tu n'auras pas le choix comme petite entreprise de monter tes conditions de travail.
Si tu veux du monde.
Et tu vas peut-être montrer
ton... Si tu veux des jeunes, surtout, parce que les jeunes... Là,
ils veulent plus travailler pour ça.
Ils sont pas faits sur le même moule que nous non plus. Là. Non. Nous, c'était pas, on va travailler, on va gagner notre argent. Les autres, c'est, je vaux quelque chose, c'est aussi bien de me payer...
Et ça, c'est une pression sur la vie de tout le monde. Je pense que tout le monde a de la pression. D'ailleurs, ça m'amène à vous présenter notre vrai sujet de la première heure d'émission parce qu'on trouvait qu'à l'automne, il y a déjà beaucoup de gens, surtout depuis 2 jours, vous avez remarqué, le temps change. Hein? Là, on est passé d'un été de canicule à, coudonc, l'automne est revenu. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, l'automne, officiellement, si vous vous demandiez quand est-ce que c'était, là, parce qu'on est le 21 septembre, c'est samedi à 21h54 du soir. À 21h54, ça sera officiellement notre rentrée dans l'automne. L'automne va nous rentrer dedans. Je ne sais pas si nous, on rentre dans l'automne, mais l'automne, lui, nous rentre dedans. Et évidemment, on appréhende toujours la venue de novembre. Mais déjà, avec le manque de luminosité, avec tout ça, je parle de la température parce que moi, ça m'affecte, le manque de température. Puis je pense que ça affecte beaucoup de monde. Et ça rajoute à parfois une période de remise en question qui coïncide avec la rentrée scolaire, avec la rentrée scolaire, rentrée au travail, tout ça. Cette période qu'on vient de vivre, là, septembre, c'est toujours une période un peu particulière, pour
un
pas
peu
dire
anxiogène, déjà.
Voilà, un peu difficile, hein, Geneviève, selon qu'on vit. Et moi, autour de moi, il y a beaucoup de monde qui se sépare, il y a beaucoup de monde qui sont malades. Je veux dire, il y a une amie qui écrivait hier, qui nous a écrit un mot pour... et c'est pas Joanne Fontaine, Joanne fait beaucoup partie de mes pensées en ce moment, vous le savez, mais j'ai une autre amie que je vois peut-être un peu moins, mais quand même, qui a un enfant en bas âge, qui a un conjoint depuis longtemps et qui a traversé le cancer du sein il y a quelques années et qui nous a annoncé à ses amis qu'elle avait un cancer irrécupérable, là, qu'on lui donnait 2 ans, puis ça atteint son foie. Puis là, tu dis... Ouf. C'est ça fesse dans le dash, comme on dit en québécois.
Surtout à nos âges. Quand on est plus jeune, ces nouvelles-là n'ont pas le même effet.
Oui, oui, mais je pense à sa fille qui a 14 ans, je pense à son chum, je pense à tout ça. Puis là, tu te dis, waouh, peut-être pour... Hier, on parlait du fait qu'on vit d'une paye à l'autre, puis que le monde économise pas au Québec, qu'on doit 1,70 sur 1 $ qu'on gagne. Mais peut-être qu'on se dit aussi, hey, on se fait suer, pourquoi? Fait que tout ça nous amène à dire, je vais y venir à notre sujet. Tout ça nous amène à dire, coudon, est-ce qu'on est bien dans nos têtes? Est-ce qu'on est bien dans nos têtes, Nicolas Chevrier, t'es psy, puis on va se dire après, l'autre question, c'est est-ce qu'on devrait pas tous un peu consulter un psychologue pour nous aider? Mais en ce moment, là, quel est notre état d'esprit mental, Nicolas?
C'est sûr que le mois de septembre, l'automne qui arrive, c'est toujours une période particulière. Donc, pour certaines personnes, ça va être une période de défi. Hein. On commence des nouvelles choses, une nouvelle année scolaire. Souvent, ça peut être une période de renouveau qu'on a préparée depuis longtemps. Mais il y a aussi une partie de la population qui, souvent, puis ça, on le voit très bien en clinique, qui comptait sur l'été pour arranger un peu leur état d'esprit, pour se sentir mieux, qui se disait, ben après 2 semaines, après 3 semaines de vacances, ça va régler mes problèmes, ça va bien aller. Puis là, malheureusement, ils se rendent compte une fois au mois de septembre qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est réglé, qu'il y a peut-être des choses plus profondes, plus fondamentales à adresser. Puis là, bien sûr, reviennent une certaine détresse, une certaine souffrance, de l'anxiété, du stress pour certaines personnes. Puis ils commencent à se poser la question, mais comment je vais adresser ça? Comment je vais changer ça? Donc, la question de l'attente des vacances, les attentes souvent irréalistes par rapport aux vacances, nous revient un peu en plein visage au mois de septembre.
C'est ça, on dirait qu'une semaine de travail en force annule quasiment 2 semaines de vacances.
Ben oui, le travail en force au retour, c'est important. Mais c'est surtout cette espèce d'illusion-là qu'on entretient que les vacances vont tout régler. Puis on voit la même chose aussi au mois de janvier. Après les vacances de Noël, bon, les gens attendent et étirent. Bon, après Noël, je verrai, je réglerai ce problème-là à ce moment-là. Puis finalement, une fois arrivé au mois de janvier, ils se rendent compte que non, le problème, c'est pas réglé.
Geneviève Saint-Germain?
Sur la température et sur le mode de...
Es-tu cyclothymique, toi aussi? Es-tu
oui, mais
thermo-affecté?
Très thermo-affecté, mais pas dans le même sens. Moi, tu vois, l'été, ça a tendance à me déprimer.
Arrête
et
donc!
Et moi, le mois de novembre, quand c'est plus sombre, quand c'est plus feutré, quand on peut faire un petit feu dans l'après-midi, quand on n'est pas dans cette grosse lumière éclatante, moi, je vais mieux.
Ah,
alors,
ouais.
Il y a toutes sortes de tempéraments.
Toi, t'es pas migraineuse?
Oui, mais l'automne me ravit. En même temps, je comprends exactement l'idée de l'anxiété de l'automne. Moi, je fais partie des gens qui sont pas au travail tous les jours. Et quand l'automne revient, et que je ne rentre pas dans quelque chose de précis ou de clair, je fais des choses, mais je veux dire, je rentre pas dans un groupe, dans une équipe, dans une job, c'est un moment de grande angoisse. C'est un moment où je suis pas bien. Je te dirais que je suis pas bien, j'apprends à le maîtriser, mais c'est pas mon best non plus.
Ben, y a beaucoup de gens qui vivent ça, là.
Sans doute.
Oui, oui, mais c'est quand même très personnel. Ça dépend de notre carrière, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de notre relation aussi. Souvent, ça, on le sait, la relation avec l'extérieur, avec le sport extérieur. Hein. Quand on parle de problématiques de dépression saisonnière, entre autres, on sait qu'une des façons de régler la dépression saisonnière, c'est de changer notre attitude par rapport, entre autres, à l'hiver, de sortir le plus possible.
Ouais.
Donc, y a une question d'attitude qui est extrêmement importante à travers ça.
Jean-François Guy, il a réglé ça, lui, ce problème-là de température. Il a décidé de partir un bon projet à Tulum, au Mexique.
Oui. Moi, je suis pas capable d'hiver. D'ailleurs, là, les premiers froids, là, dès que je commence à avoir froid aux pieds, là, je ne suis pas bien. Je commence à avoir plus envie de dormir l'après-midi, de faire des siestes. Puis la première fois que j'ai consulté un psy, c'était en octobre-novembre. Après, j'avais perdu une blonde durant l'été, une grosse peine d'amour. Après ça, je travaillais à la presse comme caricaturiste, puis ils ont terminé mon mandat. Après ça, j'essayais de me trouver des petits boulots, puis j'avais trouvé un beau contrat de caricature pour un magazine à Ottawa, puis finalement, ils avaient adoré mon sketch, puis le final, ils m'ont dit non, c'est pas ce qu'on veut. Ah, là, je valais de la... Ah, là, j'étais une merde, là.
Ouais.
Et puis, ma mère qui est psy, donc plus sensibilisée...
Ta mère est psy?
Ma mère est psy, oui. psy de carrière. Là. Oh, elle a été longtemps dans un CLSC.
Est-ce que c'est
puis à son
un
compte.
Avantage ou un désavantage d'avoir un parent psy?
Je dirais qu'elle n'est pas psy avec moi. L'avantage, c'est qu'elle est capable de reconnaître certaines choses. Des fois, on se coltaille. Tu sais, on a des petits désagréments, des prises de poussée. On se fait... pas qu'on se fait de la peine, mais tu sais, on s'entend pas toujours bien. Puis deux, trois jours après, on revient. Puis ah, tu sais, j'ai pas été correct. Tu sais, je t'ai dit des affaires, mais moi, j'étais pas bien avec ça. Puis elle est capable de me verbaliser, de m'expliquer les choses. Mm-hmm. Donc, ça reste pas comme ça. Contrairement à mon père, qui oublie ça, là. On n'est jamais capable de se parler. Puis finalement, on se parle plus. Puis il y a une incapacité de reconnaître les choses. Ouais. Tandis que ma mère a bien des défauts. C'est ma mère, c'est pas une psy. Mais capable de reconnaître des choses. Puis ça fait tellement du bien.
Ouais. Et est-ce que ça t'a aidé à cette époque-là de consulter un psy?
Qui
n'était pas ta
beaucoup.
Mère?
C'était, oui, puis en plus, c'est un excellent psy. C'est comme un psy de psy. Là,
ah,
qui,
ouais?
qui ils font des réunions, des fois, de psychologues ou des retraites. Puis j'imagine que tu connais un peu le principe.
Oui,
là, tu peux pas être un bon psychologue si tu vas pas voir tes pères.
Ouais, est-ce que c'est vrai, vision. Entre autres, que chez les psychiatres, en tout cas, il paraît que les psychiatres, qui font donc 5 ans de médecine, plus ensuite une spécialité en psychiatrie, il faut qu'ils fassent une analyse, c'est-à-dire une genre de... C'est plus compliqué, c'est pas une psychothérapie, c'est carrément une analyse sur...
Fut une époque où on demandait
ça. Est-ce que c'est encore
ça?
Non, on le demande plus.
On demande plus ça. La littérature, les données probantes, la recherche nous a dit que c'était pas réellement nécessaire maintenant de le faire. Il y a des gens qui le font encore, mais de façon générale, on ne le demande plus.
Et pourtant, il y a tellement de psychiatres qui sont pas psychologues pantoute.
Tellement, ouais.
Qui sont là pour vérifier ton taux de sérotonine, puis on va te donner ça, puis un autre.
Mais on leur demande de faire un travail qui est extrêmement différent de celui de psychologue.
Ben
maintenant,
oui.
Le psychiatre, c'est vraiment le spécialiste de la médication.
Ouais.
Ça doit être clair comment doser tout ça. Et peu ont le temps maintenant de faire vraiment la psychothérapie, de s'asseoir avec le patient.
Ils n'en font pas, d'ailleurs.
Exactement, on est en pénurie pour la psychiatrie, donc il y a ça aussi.
D'ailleurs,
de leur côté,
il va te prescrire des médicaments. Si tu ne prends pas, il va dire va voir un psychologue.
Oui.
Vraiment, là. Toi, as-tu vu un psy pour être psy?
Non.
Non,
non.
En vois-tu un psy des fois?
J'en vois un des fois, absolument. J'en vois un des fois, ça nous arrive. On est tous supervisés, hein. Faut faire attention, c'est la relation, elle est différente. Quand on parle de supervision, là, on parle de certains cas qu'on peut avoir qui sont plus difficiles, qui nous donnent du fil à retordre. À ce moment-là, on a un psychologue ressource là, qu'on va consulter et puis qui va nous donner un coup de main. Mais dans ma vie personnelle, ça m'est déjà arrivé certainement. Je pense entre autres à la psychothérapie de couple qui est extraordinaire pour maintenir un mariage, maintenir un couple.
Oui, oui.
Tout le monde devrait avoir un psychologue de couple.
On va en reparler de cette psychothérapie en particulier. Geneviève, toi, tu as consulté pendant des années, parce que tu avais une espèce d'état. Il fallait que tu comprennes.
J'ai consulté 10 ans on and off, je veux dire, pas tous les ans, avec des répits et tout ça, parce que j'avais une espèce de mal-être. C'est pas obligé, on va pas nécessairement voir le psy, parce qu'on a un problème ponctuel. Moi, j'ai commencé peut-être à la fin de la vingtaine, parce que j'avais un mal-être et que je savais, parce que j'avais beaucoup lu, que je venais d'un milieu familial où ça se peut que ça m'ait magané, le rapport que j'avais avec ma mère. Et on parle pas d'inceste, on parle pas de coups physiques, on parle de rapports difficiles avec la mère, voilà. Et puis, j'ai consulté pendant toutes ces années-là, j'arrêtais, je reprenais, parce que je voulais savoir qui j'étais. Je me disais toujours, si je me trouve pas, c'est pas parce que je me serais pas cherché, parce que j'ai cherché à savoir qui j'étais et comment je fonctionnais. Cependant, je
t'es trouvé?
Pas mal, mais je dirais, un coup qu'on sait, pourquoi je fais ça, comment j'ai... Pourquoi j'agis de telle façon dans telle circonstance? Pourquoi je réagis comme ci ou comme ça? Qu'est-ce qui fait que, un coup qu'on sait tout ça, est-ce qu'on est plus heureux? Ça, c'était ma question pendant un moment. Et j'ai trouvé que dans une forme de vie spirituelle qui n'a rien de religieuse traditionnelle, que c'est la voie d'un certain bonheur est plus là, à mon avis, que dans toute cette recherche-là. Mais je ne regrette pas une seconde de cette recherche-là. Parce que quand tu connais les autres. Et ça, ça fait pas mal de bien dans la vie de savoir. Je pense que à force de savoir, de chercher qui tu es, quand tu rencontres du monde, tu sais pas mal à qui t'as affaire. Tu te trompes pas souvent en plus. Puis ça peut être assez apaisant ou assez apaisant. Je dirais ça comme ça. Puis peut-être plus facile dans les relations avec les autres aussi.
C'est plus facile. C'est une recherche d'acceptation de soi-même. Pas évident de vivre avec soi. Je pense que la personne la plus difficile à vivre, à part ton conjoint ou tes enfants, c'est soi-même.
Mm-hmm.
Et je dirais qu'il y a une erreur souvent les gens vont faire, c'est « Ah, je vais aller voir un psy, je veux changer, je vais changer » ou « Tu vas voir un psy parce que je suis plus capable d'endurer, tu vas changer. » Il y a des conjointes et des conjoints qui exigent ça.
Ils sont assez directifs. Hein?
Oui.
Mais ça vous
tu vas aller consulter parce que je suis plus capable d'endurer.
Donc, ça vous arrive de vous taper vous-même sur les nerfs. Là. Je suis pas tout seul. Là.
Taper sur les nerfs, ou, oui, à un moment donné, je suis plus capable.
Mais d'accepter fondamentalement qui on est. Dans le fond, c'est ça l'affaire. Après ça, les autres... T'as pas le choix de les accepter aussi, à quelque part, quand tu t'acceptes profondément. Ouais. Mais qui s'accepte profondément, complètement?
Ouais.
C'est le travail d'une vie, exactement,
je pense
Nicolas.
Dans un cas comme celui-là, on est vraiment dans une situation où on adresse un mal-être, où on adresse une façon de vivre, une façon de se percevoir qui est extrêmement importante. Mais il faut garder en tête qu'il y a beaucoup d'autres situations où il y a des gens qui souffrent de problématiques d'anxiété, de dépression, d'idées suicidaires. Je pense aux gens qui souffrent de troubles de stress post-traumatique parce qu'ils ont vécu des événements difficiles.
Ça, c'est des rencontres ponctuelles avec un psy qui donne des outils.
Un traitement psychothérapeutique avec des objectifs clairs. On est vraiment dans le traitement à ce moment-là, ce qui est un peu différent là, d'une psychothérapie basée sur le bien...
Sur la recherche de soi.
La recherche de soi
Mais ça n'empêche pas qu'on puisse trouver dans cette recherche de soi-là qu'on est quelqu'un de dépressif, mais qu'on ne l'aurait jamais su autrement.
Tout à fait. On va s'arrêter ici. Très courte pause, on va revenir parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens, puis il y a peut-être une évolution dans la psychothérapie aussi, puis dans le fait que les gens... Aujourd'hui, c'est un peu moins tabou quand même. Avant, on n'en parlait pas. On disait, d'avoir un psy, mon Dieu, t'es fou. Les gens disaient, ben, je suis pas folle, c'est pas vrai que j'ai rien. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a comme incorporé un peu plus le réflexe de dire, je suis pas bien, donc je peux peut-être aller consulter. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se diagnostiquent eux-mêmes.
J'aimerais savoir avec les auditeurs, j'ai une question que je me suis posée avec Isabelle. Est-ce que les gars versus les femmes... Tu sais, dire, moi, je vais consulter, je suis un gars, je consulte.
Est-ce que les filles consultent sur un gars?
Fille qui consulte, c'est bon, tu t'occupes de toi. Puis ça, un gars qui consulte, ça passe moins bien.
Ben, tu peux vous éclairer là-dessus.
Oui, j'aimerais ça en savoir, parce que c'est pas quelque chose qu'on se vante, nous, les gars.
514-790-9850 pour nous joindre, bien sûr, et nous raconter comment vous voyez les choses. Sans frais, vous pouvez nous joindre partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. On parle ce matin de cette espèce de période qu'on vit, là, la remise en question de l'automne. Des fois, il y a des périodes difficiles aussi, puis on dirait que la rentrée, il y a une conjonction qui fait que parce qu'on est plus occupé, parce qu'on vient d'un été de vacances, ce genre de situation. Moi, je remarque qu'en ce moment, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se séparent, qui vivent une relation difficile, qui ont vécu ça cet été, et là, qui doivent vivre avec la rentrée scolaire. Des fois, quand il y a des enfants, c'est compliqué. C'est pas évident à vivre. On a Simon, d'ailleurs, qui nous appelle. Bonjour, Simon. Vous avez encouragé fortement votre conjointe à aller consulter un psychologue?
En fait, je ne l'ai pas encouragé. Je me suis plutôt concentré moi-même à accepter le fait que je pouvais pas régler les problèmes de ma conjointe. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Ma conjointe a vécu plusieurs événements très dans sa vie, que ce soit son premier amour, ses suicidés, des problèmes de violence au familial, un de ses enfants qui était très violent, qui avait des problèmes de santé mentale, qui l'a même agressé, qui a failli la tuer. Et puis,
mon Dieu, il y a beaucoup de traumatisme, là. Ouais.
Oui, et malgré le fait qu'elle consulte, je me butais à une pensée que les progrès avançaient pas.
Mm-hmm.
Mais j'ai travaillé sur le fait d'accepter que, pas parce que ma conjointe consulte, que c'est pas une petite pilule rose que t'avales, là.
Ouais.
Donc, je me suis moi-même renseigné auprès de psychologues et j'ai lu pour savoir qu'à un moment donné, moi-même, je dois faire du lâcher-prise auprès de l'avancement de ma conjointe. Quand ça avance pas assez vite à son goût, tout ce que je peux faire, c'est l'écouter. Là.
Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'en fait, vous vous dites que ça fait un an et demi que vous êtes ensemble, donc c'est une nouvelle relation.
Oui.
C'est pas un peu tue l'amour, ça, d'être avec quelqu'un qui a des problèmes à régler, qui traîne un bagage important, des traumatismes qui peuvent être parfois tellement difficiles à se libérer?
En fait, c'est vraiment là qu'on voit si l'amour passe ou casse, parce que sans vouloir lui reprocher, c'est sûr que dans nos premiers mois de fréquentation, elle n'est pas arrivée avec moi à notre premier souper puis dire « Écoute, moi, je consulte, ça avance pas, j'ai des problèmes, j'ai des pensées suicidaires, je suis souvent dépressive. » C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu une deuxième date.
Ouais.
Mais de voir après 5-6 mois que le progrès n'est pas si significatif que ça, c'est sûr qu'il y a eu un temps où j'ai pensé mettre fin à la relation. Mais ça, c'est la sortie facile parce que dans le fond, de voir son cheminement me fait moi-même cheminer, me fait grandir moi-même.
Ah, c'est bon. Merci. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci bien. Mario, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, j'ai consulté. Et puis, j'ai pas honte de ça. J'ai consulté il y a quelques années suite à une séparation.
Ouais.
Et puis, l'année dernière, en fait, oui, l'année dernière, puis même cette année, en fait, parce que j'ai vécu comme 2 décès, puis une annonce de maladie grave, là, un cancer de stade 4 pour une belle-sœur. Alors, mais tout ça dans une semaine et demie. Alors, à un moment donné, là, tu perds le contrôle un peu, là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Mm-hmm. Puis, c'est... Alors, j'avais besoin d'aller travailler sur ça, puis ça fait du bien.
J'aimerais entendre Nicolas Chevrier là-dessus, notre psychologue, ouais. Parce que merci beaucoup, Mario, de votre témoignage. Nos deux auditeurs ont vivent des choses intenses, particulières. Il y en a un qui est avec quelqu'un qui est vraiment dépressif,
ouais.
Pensée suicidaire et tout. C'est pas évident de vivre avec quelqu'un qui vit une dépression, là.
Absolument.
C'est pas tout le monde qui supporte ça, là.
C'est pas tout le monde qui supporte ça.
T'sais, on est patient 5-10 minutes, mais à un moment donné, il y en a qui ont tendance à dire, là, place-toi, là.
Il y a des gens qui sont plus, bien sûr, qui sont plus supportants que d'autres. Puis,
ouais.
Puis bien sûr, dans un cas comme celui-là, souvent, la consultation pour le conjoint également va être importante. Si le conjoint veut maintenir la relation, veut que la relation fonctionne bien. Puis ça m'amène sur une question que monsieur a touchée, qui est très, très importante, qui est de dire, moi, je consulte. Pourquoi je consulte? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, les hommes, entre autres, on en parlait tout à l'heure, les hommes consultent? Pourquoi ils consultent? Dans quelles conditions ils consultent? Moi, ce que je vois, j'ai vu le changement. Ça fait 15 ans que je pratique le changement. Pour moi, il est radical. Pour les hommes, je dirais de 50 ans et moins, on est peut-être rendu à peu près à ce niveau-là, 45, 50 ans et moins. Pour les hommes, consulter, c'est comme aller voir un mécanicien quand ils connaissent pas bien la mécanique. C'est comme d'aller voir leur comptable pour faire leur comptabilité puis leur fiscalité. Ils ont des émotions qu'ils comprennent pas. Ils ont une difficulté à gérer leur stress. Ils vont aller voir le spécialiste de la gestion du stress ou le spécialiste de l'anxiété.
Vous avez dit 45 ans et moins. Hein?
C'est... Celui-là, c'est le psychologue, le spécialiste de l'anxiété. Donc maintenant, les psychologues sont vus comme un service, des gens qu'on va voir, des gens avec qui on discute entre amis. Ça, c'est pour la génération un peu plus jeune. Un peu plus la génération des 50 et plus, il y a une différence.
Ouais.
Il y a une différence qui est quand même assez claire. Dans mes débuts, j'ai vu des hommes où c'était plus difficile, où justement, il fallait cacher, on voulait seulement payer comptant, on voulait pas avoir de reçus, on disait pas qu'on allait chez les psychologues, absolument. Ça, l'ai vu clairement chez certains hommes. Mais la différence générationnelle, à partir de la génération X, elle est claire. Et les X, les milléniaux, n'ont aucun problème à aller consulter lorsqu'ils en ressentent le besoin. Puis ça, c'est vraiment une bonne chose pour tout le monde.
Oui, c'est bon pour les filles aussi de savoir ça.
Clairement. Puis... Mais Nicolas, tu dis, c'est un peu comme un garagiste. Est-ce que le gars va y aller en disant, bon là, moi, il me semble que j'ai tel problème, veux-tu me régler ça maintenant? Est-ce que c'est genre, j'ai un problème là, faut que ça parte là? Est-ce que c'est un peu pensée magique? Faut pas que ça dure trop longtemps?
Pas nécessairement, mais on le voit vraiment comme un service. Okay. On le voit comme un service. On arrive, certains vont être conscients que c'est un travail à long terme. D'autres, bien sûr, comme des femmes également, vont demander, moi, je veux que ça soit réglé en temps de rencontre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donne-moi des outils. Puis parfois, c'est plus compliqué que quelques rencontres, là, dépendamment des difficultés qui sont vécues. Mais ça, c'est assez unisexe. Donc, les hommes sont quand même assez ouverts à plus de rencontres, un travail vraiment plus en profondeur.
Dans le cas de Mario, là, qui disait, puis tu as réagi quand Mario disait « j'ai vécu une séparation », ensuite la maladie, ensuite tout ça en une semaine et demie, il y a des moments où parfois c'est juste le fait d'empiler les problèmes qui fait que là, la cocotte minute explose.
Absolument, l'accumulation de problématiques comme ça va faire que vient un moment où le stress est tellement important qu'il faut consulter. Puis souvent dans ces situations-là, lorsqu'on a un décès, une amie qui nous parle d'un cancer, des difficultés autour qui sont communes. Hein. Souvent, en famille, quand on a une sœur qui a le cancer, tout le monde est affecté par ça.
Ouais.
Donc, on peut pas nécessairement aller chercher le support de notre père, de notre frère ou de notre enfant. Tout le monde est affecté par cette situation-là. Donc là, ça devient important d'aller à l'extérieur, d'aller vers des professionnels qui vont pouvoir nous donner un certain support ou pour nous supporter parce que autrement, on est un peu seul dans ça.
Mais il faut le dire que le travail du psychologue... En fait, c'est d'être à la fois bienveillant et neutre. Ce que la famille ne peut jamais être.
Absolument.
C'est vrai, ça. C'est vrai, Geneviève. Ouais, effectivement.
La famille ne peut pas être neutre parce qu'elle vit la même chose, elle vient de la même place. Il y a les mêmes modes de fonctionnement. Quand les gens disent, par exemple, j'ai pas besoin de voir le psy, moi j'ai ma famille, ma mère, ma sœur, puis j'ai des amis, c'est pas de même, ça marche.
Oui, sûrement que ce que je disais, puis je me suis peut-être mal exprimé, c'est que dans des situations de crise comme celle-là, le support, à ce moment-là, ça va être important d'aller chercher à l'extérieur. Mais c'est clair que le travail que le psychologue fait avant tout, c'est un travail de psychothérapie. Puis la psychothérapie, c'est quelque chose de bien défini. On sait ce que c'est. Il y a des gens qui ont le droit d'en faire au Québec, puis il y a des gens qui n'ont pas le droit d'en faire au Québec. Les gens qui ont le droit d'en faire au Québec, entre autres, c'est les psychologues, certains psychothérapeutes qui ont un permis de psychothérapie, les psychiatres, ensuite certains travailleurs sociaux, certaines infirmières. À partir du moment où ils ont un permis qui a été délivré par l'Ordre des psychologues. Donc, c'est les gens qui ont le droit au Québec de faire de la psychothérapie. Et les autres n'ont pas le droit.
Mais il y a différentes approches
oui,
aussi.
Oui, il y a différentes thérapies, puis je voulais qu'on vienne là-dessus après la pause.
Il y a des approches plus comportementalistes, où là, tu sais, un comportement qu'on veut changer, quelque chose de plus immédiat.
Et moi, j'ai eu des histoires où des psys étaient très, très, très directifs et on parlait d'écoute.
On peut chercher ça aussi. On peut avoir besoin de ça. On a besoin, mais tu sais, sur une courte... Tu sais, une thérapie de choc, là, on peut avoir besoin. Moi, j'ai eu besoin de certains conseils. Quand tu tapes le nez tout le temps, à la même place. Là
ton psy t'a dit, bon, là, ça suffit, Jean-François, là, tu vas faire telle affaire.
C'est différent que je veux guérir ou comprendre des blessures profondes. Mm. Et là, c'est un travail de longue haleine. On va pas toujours chercher... ce qu'on a de besoin, ou en tout cas, chez chaque psychologue ou chaque approche, on va chercher ce qui nous convient ou ce qui fait que...
Bon, on va démêler ça après la pause, si vous voulez bien. Bien sûr, on parle de consultation auprès d'un psy. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un psychologue? Pour quelles raisons? Et est-ce que vous y songez? Et quand, à partir de quand devrions-nous consulter? Et surtout, après, faut le trouver le bon psy. Il faut qu'il y ait un fit avec ton psy. Puis ça, il faut magasiner son psy. C'est comme d'autres choses. 514-790-9850, 1-866 sans frais, 790-9850. On parle de consultation de psy. Bonjour Sébastien, avez-vous déjà consulté, vous?
Oui, bonjour Isabelle.
Bonjour.
J'ai consulté à de nombreuses reprises dans ma vie, que ce soit à l'adolescence, là, début de l'adolescence, ou là, c'est plutôt réfractaire, là, je vous dirais, tu sais, l'adolescence, sans prendre le compte. Mais plus tard, là, 24-25 ans, là, une dépression où je suis allé moi-même chercher de l'aide, donc chercher un psychothérapeute. Et la psychothérapie a été d'une grande aide là, pour passer au travers les moments difficiles. Puis aller chercher du bagage aussi, parce que pendant la psychothérapie, on va aller chercher dans l'enfance, le passé, les problèmes du passé, puis on va aller défaire parfois ces nœuds-là. Mm. Et c'est du bagage qui nous permet d'avancer par la suite. Puis quand on replante, parce que ça arrive dans mon cas dernièrement, puis là, je vous le dis, vraiment, ça va très bien, mais les quelques dernières années ont été difficiles. J'ai eu une autre psychothérapie et le chemin qu'on a fait déjà auparavant nous aide à continuer justement dans ce travail-là. Puis je pense qu'au niveau des hommes, comme on disait avant la pause, les hommes de plus en plus, là, 45 ans et moins, j'en ai 38 ans, vont consulter, puis on en parle entre nous autres aussi.
Ah.
Puis je constate qu'on en parle de « OK, moi, mon psy, telle affaire. » Tu sais, le premier psy, moi, que je suis allé voir par moi-même, là, elle avait une approche freudienne. Ça collait pas du tout. J'aurais pu abandonner là, tu sais, puis dire « Eh ben là, c'est bien plate, puis je veux plus rien savoir de ça. » Mais je suis allé en chercher un autre qui avait une approche humaniste, qu'est-ce qui s'occupe me collait plus à la peau. Et après ça, j'ai pu cheminer. Mais souvent, la première rencontre se passe pas très bien, que ce soit chez les hommes ou les femmes, et vont décourager après d'aller consulter. Parce que moi, quand j'en parle, je parle de mon expérience avec les gens qui m'entourent, puis les gens que je rencontre, et je constate ça, là. Tu sais, moi, j'en ai vu une.
C'est ça.
Elle était bien directive, elle était bien...
C'est ça. Puis on se demande, c'est drôle, j'en parlais avec des amis hier, un psy, là, ça doit-tu te parler? C'est-tu, bon, on parle compteur, ça dure une heure, allez-y. Quand c'est fini, ça dit merci à la semaine prochaine ou ça jase, c'est une discussion? C'était quoi, vous, Sébastien? Puis je vais poser la question à Nicolas après.
Ben moi, c'était un échange. Là.
OK, c'est une discussion. Vous jasez avec votre psy. Ouais.
Puis, tu sais, des questions, puis un feedback. Moi, j'avais besoin d'un feedback.
Ben oui.
Puis dans l'approche freudienne, j'avais pas ça du tout. Il fallait quasiment que je m'étende puis que je parle pendant
c'est
un an.
C'est la psychanalyse.
Freud, là, c'est intense, Freud. Hein? Nicolas, merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup de votre témoignage, Nicolas Chevrier, psychologue. Il y a les différentes approches. Puis Sébastien l'a bien dit, il y en a qui ne fuitent pas avec toi. Approche freudienne, c'est quoi, là? C'est la psychanalyse?
C'est la psychanalyse psychodynamique, mais c'est une partie de l'approche psychodynamique. Donc, l'approche freudienne, on postule que les difficultés qui sont vécues chez l'individu sont en lien avec des conflits inconscients qui sont développés dans la petite enfance. Donc, à ce moment-là, le travail là, du psychologue dans cette approche-là, c'est vraiment d'aider la personne à faire émerger
Parlez-moi
un peu
de
des
votre
conflits,
mère, genre, c'est ça, là.
Ça peut être ça, mais dans l'interaction entre le psychologue et puis la personne, il y a vraiment une différence. Il y a assez peu d'interaction. Mm. C'est vraiment autour de la personne que ça va se centrer.
Et l'approche humaniste dont tu parlais après, ou enfin...
L'approche humaniste, le psychologue va échanger avec la personne, mais on postule que les difficultés sont vraiment... chaque être humain a en lui la capacité de faire face à n'importe quelle difficulté. Donc, à partir de là, l'humaniste va essayer d'aider la personne par des interactions à comprendre mieux sa situation, à trouver lui-même des solutions et puis à appliquer ces solutions-là dans sa vie.
Toi, tu fais quoi, toi, comme approche?
Cognitivo-comportemental. Mm-hmm. Cognitivo-comportemental, c'est une approche qui est vraiment basée sur la recherche, sur les données probantes. Puis ce qu'on fait, on se place vraiment comme des experts de la connaissance scientifique, si on veut, la connaissance scientifique psychologique. Puis on place notre client dans un rôle d'expert de sa vie à lui, expert de sa vie psychologique. Donc, une espèce d'application de ces modèles-là. Donc, on essaie d'arrimer des modèles psychologiques qui viennent de la science.
Fait que t'es plus dans les questions. Tu vas plutôt questionner la personne,
oui.
Client. Hein?
On essaie d'amener le client à devenir son propre psy. Donc, quand il voit qu'il vit de l'anxiété, par exemple, il va se poser la question, à quoi je pense à ce moment-là? Je suis dans quelle situation? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Donc, on est beaucoup dans l'appliquer, puis on est très proche, beaucoup dans les interactions, puis dans une compréhension, développer une compréhension mutuelle.
Mais est-ce que vous faites fi de tout ce qui est pour moi la base, là, d'où tu viens, quelle sorte, tu viens de telle famille, tu as eu telle... Oui. Pantoute, vous occupez pas de ça, pantoute?
On s'en occupe, on le fait dans l'évaluation de façon générale. Donc, on a besoin d'une bonne évaluation pour partir. Puis c'est sûr que ces approches-là, c'est des approches qui sont assez complexes. Donc, on peut pas dire qu'on se centre juste sur un comportement de façon spécifique. C'est toujours l'individu dans son ensemble, dans les trois approches. Et puis, la seule
puis
différence...
Vous lui demandez
pas
d'aller chercher dans sa famille, dans ses souvenirs, dans ce qu'il se rappelle, dans ce qui...
Absolument. Il y a des moments où on va dans les premiers apprentissages. C'est un peu comme ça qu'on le voit en cognitivo-comportemental. On est beaucoup dans les apprentissages. Quand j'ai appris, comment j'ai appris. Parfois, j'ai appris avec mes parents comment gérer mon anxiété. Donc, on doit se poser des questions sur comment ça se passait dans la famille.
Est-ce que ça vient
comment
toujours
ça s'est
de
développé?
Nos parents? Nicolas, réglons ça ce matin. Ben oui. C'est-tu toujours la faute de nos parents?
Non, c'est rarement la faute de nos parents, en fait.
Je vais pouvoir dire ça à mes enfants, ça me fait du bien.
Non, mais c'est pas la faute. C'est pas l'idée de la faute.
Non, c'est pas l'idée de la faute.
C'est un peu une blague.
Du modèle.
Non, mais il y a beaucoup de psychologues qui vont nous ramener.
Une expression qui dit les chiens font pas de chat.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de psy qui nous ramènent dans notre enfance. Ça peut être fatigant quand t'as pas envie d'en parler. Là.
Oui, mais si t'as pas envie d'en parler, comment tu veux guérir?
Ben, il y a Louis qui maigrit, justement. D'abord, il faut croire, il faut être convaincu qu'il faut consulter. Lui, il y a une ex agressive qui me dit verbalement, physiquement aussi, après la naissance des enfants, malgré tous mes efforts sur une période de 5 ans pour qu'elle consulte, elle a toujours refusé. J'ai fini par la quitter. J'ai consulté une première fois moi-même pour me refaire un nouveau plan de vie, puis une autre fois après, parce qu'elle continuait de me faire la vie misérable, puis une autre fois. Puis dit que lui, ça l'a beaucoup aidé. Puis il dit, sans consultation, peut-être que je serais à la rue aujourd'hui.
Mais ce qui est bien important, c'est que ces trois grandes approches-là, là, chaque individu va avoir des affinités avec chacune de ces approches-là. Ouais. Moi, j'ai déjà eu un client qui, dans la première rencontre, m'a dit, Nicolas, tu m'apprendras pas comment penser. Bien, ça va mal à la chope, là, parce que c'est pas mal ça qu'on fait en cognitivo-comportemental. Donc, à partir de là, moi, j'ai des collègues qui font de l'excellente, qui sont d'approche psychodynamique, qui sont très bons, d'autres qui sont d'approche humaniste. On les réfère. On les réfère vers des collègues.
La personne qui t'a dit ça?
Tout de suite, je lui ai dit, on pourra pas travailler ensemble, clairement. Puis, je l'ai référé vers une collègue humaniste à ce moment-là, avec qui il y avait des affinités, puis avec qui ça a très bien fonctionné. Donc, c'est pas tellement est-ce qu'une approche est bonne ou pas bonne. Ouais. C'est plus moi, comme client, quand j'arrive, c'est quoi mon besoin, puis avec quelle approche est-ce que ça va arrimer le plus, puis quelle approche va me permettre d'atteindre mes objectifs.
Mais est-ce qu'on peut guérir, ou en tout cas améliorer sa vie et son état mental, à quelque part, sans être allé voir les blessures, sans les avoir regardées? Voilà.
Ben là, tu nous mènes à la pause, là.
Ben, voyons donc.
Voilà. Mon Dieu, faut une autre heure là-dessus. On pensait pas, mais on a tellement de choses à se dire, les amis. Je vous rappelle, je suis en compagnie de Geneviève Saint-Germain, Jean-François Gué et du psychologue Nicolas Chevrier. Normand, tu me rappelles, c'est Jean-Claude qui est avec nous, qui nous appelle. Bonjour, Jean-Claude.
Oui, bonjour, Isabelle. Bravo pour l'émission. C'est Merci. Bon, cette émission-là.
Merci.
Moi, j'ai consulté un psychologue, OK, à cause de ma femme, parce que ma femme a fait une psychose. Ma femme, suite à ça, elle a été à l'hôpital, elle a été là pendant 2 mois en psychiatrie, OK?
Oui.
Moi, je travaille déjà dans un hôpital, ça fait qu'elle ne voulait pas aller dans mon hôpital,
je comprends.
C'est normal aussi.
Oui, oui.
Ça fait qu'elle s'est ramassée à Laval, au lieu de mon coin, et elle est restée là pendant 2 mois. Suite à ça, elle est sortie avec moi, là, elle est sortie, et là, ça revient. Ils ont donné de la médication. Bon, la médication ne faisait pas parce que là, elle avait peur pour son corps, elle avait peur pour si, alors tout ça.
Et là, ça vous inquiète, Jean-Claude?
Ben, ça m'inquiète.
Ouais, vraiment.
Ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que les lois sont mal faites.
Avez-vous un suivi? Est-ce que votre conjointe a un suivi avec un psychiatre?
Non, elle n'a plus. Elle n'a plus parce qu'elle ne veut pas consulter.
Ouais.
C'est ça le problème. Puis moi, je ne peux pas la forcer parce qu'il n'y a pas de danger pour elle-même. Ni pour les autres, c'est pour autrui.
Nicolas, là-dessus, je vais demander à Nicolas Chevrier, un psychologue, peut-être de réagir. Ouais, Jean-Claude, merci.
C'est toujours une situation qui est extrêmement difficile quand on a quelqu'un qu'on aime qui est en détresse comme ça. Il y a toujours une balance entre les droits de la personne, justement, à refuser un traitement, et puis de l'autre côté, ce qu'on ressent par rapport à cette personne-là, puis le fait de vouloir aider cette personne-là. Puis toujours l'aspect qui est fondamental. En santé mentale, on parle du cerveau, donc on parle le cerveau de notre jugement, puis c'est souvent notre jugement qui est affecté quand on a des problématiques de santé mentale. Donc c'est un grand, grand défi que d'essayer de balancer l'obligation d'aller consulter versus le droit d'aller...
Parce qu'il y a les problèmes existentiels. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux, là, Nicolas. T'as le psychologue qu'on va consulter qui peut régler nos questionnements de vie... Geneviève en parlait tout à l'heure. Où vais-je? Comment suis-je? Qui suis-je? Ces fameuses questions. Puis tant mieux si on y trouve des réponses avant de mourir.
Ouais.
Mais après, il y a toutes les problématiques de santé mentale.
Oui.
Le psychologue, son travail, c'est aussi de déceler ça et puis ensuite de guider le patient. Le client devient donc un patient après.
Oui, mais il y a une grande partie des problématiques de santé mentale qu'on va travailler
en psychothérapie
que les psychologues vont travailler. On sait aujourd'hui, la recherche elle est très claire, que la psychothérapie est aussi efficace que la médication. Donc, oui, absolument. La recherche elle est claire là-dessus. Donc, les deux sont au même niveau.
Même dans les cas de psychose, non?
Dans les cas de psychose, c'est autre chose. Dans les cas de psychose, c'est autre chose. Il y a d'autres pathologies qui sont plus pointues. Dans les cas des problématiques bipolaires aussi.
Mais dans le cas Jean-Claude, il nous appelle, il dit « Moi, ma femme a fait des psychoses, là, je suis inquiet. Ouais. » Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Oui, bien, dans un cas comme celui-là, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a déjà un suivi à Douglas ou un suivi dans un hôpital, de rappeler l'hôpital, puis d'aller chercher de l'aide auprès d'eux, en avoir parlé un peu de la situation, puis savoir comment il peut faire ça. Les travailleurs sociaux, souvent, vont pouvoir donner un coup de main dans ces situations-là. Donc, il y a de l'aide dans le réseau de la santé publique qui est présente à ce moment-là pour quelqu'un qui a déjà été...
J'aimerais ça juste apporter quelque chose. C'est pas évident d'aller consulter un psychologue.
Non.
Ça coûte cher.
Oui, voilà,
et
je voulais qu'on en parle.
Les ressources gratuites sont extrêmement limitées. J'ai essayé avec des enfants. Tu sais, j'ai eu un divorce pas pire, moi. Et ça a été long et laborieux.
Il faut avoir les moyens, là. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Nicolas, ça coûte combien une heure avec un psy, là, selon le psy en moyenne?
Ça peut coûter, dépendamment...
Entre 90 et 125, facilement.
Même plus.
J'étais chanceux, plus cher, je ne travaillais plus. Là. Après, là, j'ai eu une période difficile et mon psy a accepté pendant quelques mois de me voir à 25 $.
Ah, oh, wow! Mon Dieu, c'est
pendant
bien.
Quelques mois. Et quand ça a commencé à aller mieux, moi-même, je tenais à payer pour...
C'est pour ça que moi, j'ai trouvé que beaucoup de médecins ont vite la prescription facile pour aller voir un psy. Est-ce que dans ces cas-là, je pense que c'est peut-être aussi pour aider le patient à avoir un remboursement d'assurance aussi, non?
Certaines assurances, oui, mais je pense
qu'il y en a qui ne remboursent pas ça. Non,
pas du tout. Je pense que les médecins sont de plus en plus conscients, le savent, mais sont pris eux également parce que d'un côté, ils peuvent prescrire la médication qui a un certain effet, puis de l'autre, ils peuvent prescrire un psychologue, mais ils savent qu'on ne sera pas vu dans le système public. Il faut que ça soit dans le système privé.
Et
parce
ça
n'y a pas de place dans le système public, malheureusement.
C'est incroyable, pareil.
Ça prend des années avant de voir un psychologue.
Quand tu es travailleur autonome, là, c'est fuck off.
Hey, merci beaucoup à tous les trois. On discutera de ça, c'est vraiment passionnant, puis je pense que ça fait œuvre utile. Merci Nicolas Chevrier d'avoir été là. Merci Geneviève Saint-Germain.
Plaisir, merci.
Merci beaucoup Jean-François Gay. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.